1.
Dans cette édition, on parlera de cette colère des pêcheurs et armateurs hauturiers sur les nouvelles AMP, vous les entendrez, des professionnels qui s'interrogent aussi sur l'influence des ONG étrangères. Et pour terminer, on prendra un verre, un petit jaune pour finir ce journal. Journal de la rédaction présenté par Lucie Rabréau. Bonjour Lucie. Pardon, bonjour Lucie.
Oui, bonjour Damien, bonjour à tous.
Et vous le savez, le gouvernement a annoncé 500 000 km² d'air marine protégée du côté des Marquises et des Australes.
Et ça ne plaît pas beaucoup aux armateurs, capitaines et marins hauturiers. 500 000 km² protégés, donc au nord des Marquises et au sud des Australes, précisément sur les bordures extérieures de la zone économique exclusive. C'est donc désormais 1 600 000 km² où la pêche palangrière est interdite. 35% de nos eaux, affirme le dirigeant du groupe Ocean Products, Vatea Moari, un non-sens pour les professionnels. Avant cette annonce, il y a bien eu des discussions avec le gouvernement, mais pour lui demander de faire une pause dans la création des AMP et d'étudier les conséquences de celles qui existent déjà, nous a précisé le patron de Vini Vini, Yan Qing. Trop tôt pour faire un bilan, urgent d'en créer de nouvelles, leur a répondu le gouvernement. On écoute le dirigeant du groupe Ocean Products, Vatea Moari.
Les AMP qui ont été mises en place l'année dernière, elles sont toutes récentes. On n'a pas eu le temps de mesurer leur impact à la fois positif, à la fois négatif. Je pense que quand on dit que voilà, la filière et tout, elle n'a pas bougé, les rendements n'ont pas bougé, en fait, on ne tient pas compte de différents paramètres. Donc pour moi, on va beaucoup trop vite. Il n'y a pas d'analyse scientifique. Et donc, par rapport aux difficultés que traverse la filière actuellement, ben, effectivement, on ne comprend pas l'ordre des priorités du gouvernement actuellement.
Il y a bien eu des analyses, a précisé Moët Broversen, qui assure que les AMP n'ont aucun impact sur les prises et que ces deux nouvelles zones protégées devraient toucher moins de 2% de l'effort total de pêche. Faux pour les pêcheurs, le président de l'association des armateurs hauturiers, Yan Qing, au micro de Charlie René.
On navigue en bon père de famille et on essaye d'anticiper les choses. Et demain, si on est dans l'obligation pour des raisons climatiques, justement, à aller pêcher plus loin, il faut qu'on le soit. On a fabriqué des bateaux de 19,50 m, de 20 m, qui peuvent nous permettre justement d'aller explorer toute la zone et aller pêcher dans toute la zone économique exclusive. Et aujourd'hui, on est en train de nous restreindre et de nous poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés.
Et les pêcheurs listent les difficultés auxquelles ils font déjà face. Hausse générale des charges, réforme du statut des marins, baisse de 30% des exports, les infrastructures vieillissantes du port, les formations locales insuffisantes, les projets de quotas sur le thon blanc dans la région. Pour les hauturiers, la création des AMP va ne faire que rajouter des problèmes. Et pour Guy Porceni, du syndicat des marins hauturiers, le pays se trompe de combat.
Il faut lutter contre ces gros navires, ces seigneurs-là qui se trouvent à la limite de la ZE, de la Polynésie. Vous partez à l'extérieur des Marquises, vous avez plus de 100 navires. Les navires extérieurs, un navire fait 100 tonnes pour un jour. À Palangrier, lui, il fait à peine quoi, une tonne par jour. C'est vrai qu'on a un gros torsion, mais c'est pas contre nous qu'il faut protéger, c'est contre l'extérieur.
Et les pêcheurs rappellent que 8000 tonnes sont pêchées par les 86 thoniers polynésiens et que ça représente 0,2% des prises de thonidés dans la région.
Et pour les pêcheurs, le gouvernement est influencé par des organisations internationales conservationnistes.
Oui, pas d'accusation directe, aucun nom d'organisation dans la bouche des pêcheurs hier, mais les sous-entendus visaient clairement le témoignage collectif, une organisation qui réunit plusieurs fondations et ONG, notamment Pew Bertarelli, Blue Nature ou le Bezos Earth Fund, et qui a formé un partenariat à 15 millions de dollars avec le pays. 1,5 milliard de francs pour 1 600 000 km² protégés. Vatea Moari invite à faire le calcul du prix auquel on a vendu notre souveraineté. Ce sont ses mots.
On considère que oui, il y a une certaine forme d'ingérence, que ces ONG peuvent phagocyter des tissus administratifs administratifs, associatifs, tout ce que vous voulez. Et donc aujourd'hui, ils ont une influence qui va du coup orienter certaines décisions. Et on estime qu'aujourd'hui, ces décisions elles vont à l'encontre des intérêts de la filière et des Polynésiens d'une manière générale.
Et Yan Qing est bien d'accord, on l'écoute.
Ces décisions-là, ça impacte toute la filière et ça impacte les emplois qui sont derrière. On représente plus de 2000 emplois, voire même encore plus. Et aujourd'hui, c'est tous ces emplois-là qui sont menacés. C'est les familles qui sont derrière qui sont menacées. Et au nom de quoi? Au nom de qui, en fait? Pour qui? Et on sacrifie la population polynésienne, on ne sait pas pour qui.
Et ce ne sont pas les premiers à critiquer ces ONG internationales qui encouragent de fortes mesures de conservation loin de leur pays d'origine. L'ancien ministre de l'Environnement, Eremoana Mamatuyahutapu, avait parlé de comportement colonialiste, un mot repris par des chercheurs qui parlent aussi de colonialisme bleu. Des pêcheurs qui préviennent le gouvernement, ça va finir par péter. Fin de citation.
À 7h05 dans ce journal, communication coupée, appels qui n'aboutissent pas après les pannes internet, les pannes Vini.
Aucun lien entre les deux, mais pas de chance au niveau timing. Ces pannes Vini ont eu lieu en plein trafic, pic du trafic, vendredi dernier entre 7h30 et 9h30 et de nouveau hier entre 9 et 10h. Selon Onati, c'est un des deux équipements utilisés pour la gestion des appels qui est défectueux. Tout a donc été basculé sur le deuxième vendredi et rebelote pour aujourd'hui. Les explications du directeur technique de la filiale télécom de l'OPT, Tehina Turek, qui était au micro de Lucie Secarelli.
On a identifié l'équipement qui serait a priori en défaut et on cherche encore l'origine de la panne. Et ensuite, on travaillera sur la solution. Vendredi, on a cherché activement. Ensuite, on a mis en place la solution de contournement qui était satisfaisante et les investigations reprenaient ce matin, donc jusqu'à ce que le problème se reproduise. Là, on va rester en relation forte avec notre fournisseur pour avancer sur ce problème-là. On a du mal à mettre le doigt sur l'origine de la panne. Et au point que même notre fournisseur est étonné et cherche encore.
Voilà, Onati espère que le deuxième équipement supportera tout le trafic, notamment au moment du pic. Verdict ce matin entre 9 et 10 heures.
On fait un détour par Makemo où Valérie Fournier a enfin pris ses fonctions de Tavalin.
Oui, elle était en tête des municipales en mars, mais c'est son rival Félix Tokorani qui avait été élu grâce au ralliement de deux conseillers et à une mauvaise répartition des sièges. Élection annulée par le tribunal administratif. Un nouveau vote s'est tenu hier et Valérie Fournier a finalement été élu maire avec 10 voix contre 5 pour Félix Tokorani, sous les applaudissements d'une centaine de personnes qui étaient présentes.
Dans l'hôtellerie, à présent, la fréquentation est en baisse de plus de 15% au premier trimestre.
Pour l'ISPF, c'est à cause de la rénovation d'hôtels, mais aussi de la baisse du tourisme nord-américain en retrait de 25% entre mars 2025 et mars 2026. Les prix, eux, ne baissent pas. Revenu moyen par chambre louée, plus de 63 000 francs, soit 15% de plus qu'il y a un an.
Et puis cette vidéo santé aussi, on compte un nouveau décès avec la leptospirose.
Oui, qui porte à 4 le nombre de morts depuis le début de l'année. La dernière semaine de mai, 7 cas ont été signalés, dont 2 graves qui ont nécessité un passage en réanimation. Les autorités rappellent qu'il faut protéger les plaies, porter des chaussures fermées et éviter les eaux stagnantes.
Vous écoutez le journal de Radio 1 et Thierry FM, il est 7h07 et du sport, Lucie, avec le Temut qui se prépare à Moria.
Peut-être vous rappelez-vous la première édition de ces courses trail de l'année dernière, en plein mois de décembre, des parcours dantesques et beaucoup d'abandons. Les organisateurs ont entendu les coureurs, alors déjà ce ne sera plus en décembre, mais en octobre, histoire d'éviter les grosses chaleurs. Départ et arrivée depuis Temet pour toutes les épreuves, des parcours revus et l'espoir pour les organisateurs de doubler le nombre de participants. Le directeur de la Ligue Ultra, Alexandre Piquier, au micro d'Alexandra Perini.
Alors, des gens qui se perdent entre elles, malheureusement, c'est quand même très régulier. Après, nous, là où on essaye de limiter, entre guillemets, le risque de perte, c'est de ne pas croiser les chemins. C'est-à-dire que tout le monde va dans le même sens. Alors, il y a un peu plus de coût logistique, puisqu'en fait, on emmène les gens au départ et tout le monde arrive au même endroit à Temet. Mais nous, c'est le parti qu'on a pris, c'est d'avoir qu'une seule trace. Et par exemple, le 55, c'est les 55 derniers kilomètres du 105.
5 trails sont donc au programme, 55 kilomètres, vous venez de l'entendre, un 35, un 20 et un 11 kilomètres et surtout l'épreuve reine, le 105 kilomètres avec 4520 mètres de dénivelé, la finale de la Ligue Ultra. Et cette année encore, plusieurs stars du trail sont attendues. Le Temut, ce sera donc du 23 au 25 octobre prochain et les inscriptions sont ouvertes.
Et après le sport, Lucie, le réconfort et cette incroyable nouvelle, le meilleur pastis est haïtien.
Oui, gros coup dur pour les Marseillais, élaboré par la distillerie Vevey de Taha. Le Tahitian Pastis a remporté le titre de meilleur pastis du monde lors des World Drinks Awards début juin à Londres. Une reconnaissance prestigieuse pour cette création 100% polynésienne. Son créateur Olivier Duret, à la tête de la distillerie Vevey, a fait 80 essais différents avant de pouvoir trouver le goût unique de Tahitian Pastis.
Globalement, c'est fait à partir d'arômes mélangés. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise notre alcool de canne à sucre bio. Donc, on est déjà sur une base de rhum. Et puis ensuite, dedans, on va mettre uniquement des plantes qu'on importe, hein, parce que les plantes anisées ne poussent pas ici. La badiane, donc l'anis étoilé, le fenouil, l'anis vert, un peu de réglisse, un petit peu de cannelle. Cannelle, on sait qu'on en aura bientôt localement de certifié bio, donc évidemment la cannelle deviendra bio immédiatement, enfin bio, elle deviendra locale surtout. Et on va utiliser donc ces cinq aromates qu'on va redistiller avec le rhum. Donc ce n'est pas des arômes qu'on mélange, c'est des plantes qu'on distille. Et donc ça donne une richesse aromatique tout à fait différente.
Pas de colorants, pas de conservateurs, tout est naturel. Les amateurs de pastis peuvent se rendre à la distillerie et sa petite boutique à Tahaha. Olivier Dureil organise régulièrement des visites et il est aussi possible de goûter à ce meilleur pastis du monde à Harway, au bar Mataveil, où d'ailleurs toutes les créations d'Olivier Dureil sont à la carte. Et attention, bien sûr, tout ça avec modération.
Et deux glaçons.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 7h30 avec la revue de presse.
Merci beaucoup Lucie, à tout à l'heure.